la maison de Hadji Yorgakis Kornesios, Lefkosia. Dans la capitale chypriote, à l'intérieur des murs d'enceinte vénitiens de la ville, se trouve la maison de Hadji Yorgakis Kornesios. Ce manoir, de la fin du XVIIIe siècle, est situé dans la paroisse d'Agios Antonios, à proximité du bâtiment de l'archevêché, au coin des rues Hadji Yorgakis et Patriarchou Gregorius V. Considéré comme le témoin le plus important de l'architecture urbaine de cette époque à Lefkosia, ce bâtiment se distingue des maisons en briques et en pierre qui constituaient le type dominant. Des résidences d'un étage, aux fenêtres grillagées et aux balcons en encorbellement au-dessus des rues, comme celle de Hadji Yorgakis Kornesios, des jardins où se mêlaient citronniers et palmiers, des mosquées aux minarets, des auberges, des bains turcs et des bazars, donnait une couleur orientale à une cité qui a vécu pendant 3 siècles sous la domination turque ottomane. Ce mélange était aussi visible parmi la population de la ville, composée de Turcs, Grecs et Arméniens, qui, malgré leurs différences, partageaient le même amour pour la terre que tous considéraient comme patrie. Telles furent les premières impressions de l'archiduc d'Autriche, Louis Salvator, lors de sa visite de la capitale en 1873. Le manoir, appelé également Konak, de Hadji Yorgakis Kornesios, se distingue tant par son caractère monumental, par la spécificité de son architecture et de son décor mural intérieur unique, que par son importance sur le plan historique. On commence donc par son histoire. Le manoir fut la résidence de Hadji Yorgakis Kornesios, originaire de Krituthera, dans le district de Paphos. Hadji Yorgakis portait le titre de Drogman, interprète du sérail. Une haute fonction qui exigeait une éducation exceptionnelle et une connaissance profonde, tant de la langue grecque que de la langue turque. En sa qualité d'interprète, Hadji Yorgakis s'occupait de questions fiscales et administratives, et par conséquent, il était en contact avec les autorités locales de Chypre, c'est-à-dire le Mouhassil, le gouverneur turc, et les Agas d'une part, et les prélats et les notables, Kokabassi, de l'autre. Il était très apprécié et respecté par le peuple et le clergé. Sa collaboration avec le clergé fut essentielle à la destitution du gouverneur tyrannique Hadji Bakis et par conséquent lui a permis de consolider son autorité et sa puissance. En 1796 environ, il fut nommé drogman de Chypre à vie en vertu du décret Kati Shérif adopté par le sultan Selim III. Grâce à sa position et ses relations, le drogman était très aisé. Cependant, il n'a jamais utilisé sa puissance et ses richesses à des fins personnelles. Le poème d'un auteur inconnu, écrit après sa décapitation, ainsi que d'autres sources écrites, nous informe que le drogman a largement contribué à la protection des chrétiens, des lépreux, au redressement économique et moral de l'Église chypriote, ainsi qu'à l'éducation de la population. Hadji Yorgakis et son épouse Maroudia, nièce de l'archevêque Chrysanthos, firent preuve de sentiments patriotiques et philanthropiques. Toutefois, il y avait plusieurs personnes qui éprouvaient des sentiments négatifs à son égard. D'un côté, les Agas turcs considéraient avec envie et inquiétude le fait que le drogman et l'archevêque aient réussi à devenir les régulateurs de la vie politique et économique de l'île, et qu'en même temps, eux-mêmes soient mis à l'écart, alors qu'en tant que dominateurs, ils étaient habitués à être les principaux acteurs du pouvoir, et les bénéficiaires privilégiés des bienfaits de ce pouvoir. De l'autre, une partie de la population était mécontente, car elle fut soumise à une fiscalité très lourde et, Hadji Yorgakis, était responsable de la perception des taxes. Même le consul de France à Chypre, nommé Regnault, adopta une attitude hostile envers Hadji Yorgakis, qu'il croyait russophile et de ce fait, ennemi de la France. Ce mécontentement s'est concrétisé en partie par l'insurrection des Turcs ottomans de l'île en 1804, suite à une hausse des taxes et des disettes. Les insurgés se sont donc retournés contre les autorités turques qui ont par ailleurs réussi à orienter la rage du peuple vers l'église et le drogman. La demeure de Hadji Yorgakis fut envahie et pillée par la foule enragée. Le drogman et sa famille s'enfuirent à Constantinople, où ils restèrent pendant 3 ans. À sa place, le drogman désigna comme commissaire son aide Nikolaos Nikolaidis. Celui-ci ne tarda pas à exploiter son poste de manière abusive et à s'enrichir avec l'aide étroite du Mouassil en appliquant des méthodes tyranniques de perception des taxes. Acquitté des charges, le Drogman revint en 1807 en vue de contrôler les comptes. Pour éviter que le Drogman exige une justification de leurs actes, Nicolaïdis et Hassan Aga adressèrent au sultan un rapport calomnieux sur Hadji Yorgakis. Un décret publié conformément à la décision de la sublime porte ordonna l'arrestation du Drogman et le contrôle de ses comptes pour les 20 années précédentes. Hadji Yorgakis s'en rendit compte et s'enfuit une nouvelle fois à Constantinople afin de prouver son innocence. Mais cette fois-ci, il n'y parvint pas. Il fut décapité au mois de mars de 1809 à Constantinople par ordre du grand vizir Yusuf Ziya Pacha qui le haïssait. Malgré les efforts des ambassadeurs d'Angleterre et de Russie, qui obtinrent, trop tard, l'ordre favorable du sultan. Tous ses biens furent confisqués, et sa famille subit l'exil et la prison pendant de nombreuses années. Le manoir fut acheté par la Turque Atis Hanim Manisali pour 13 000 piastres. En 1830, Tselepi Yangos, le fils cadet du Drogman, revint de Constantinople. Il récupéra la demeure par le biais d'un prêt consenti par l'archevêché. Tselepi Yangos s'installa dans sa maison natale avec sa femme Yuliani, née Vonditiano. En 1874, il mourut. Son épouse, qui n'a jamais eu d'enfant, continua à vivre dans la demeure avec la famille de sa nièce et fille adoptive Urania Zachariadou Ikonomidi. Le manoir passa aux mains des quatre filles d'Urania. Après la mort de la dernière occupante, Yulia Piki, en 1979, conformément à son souhait et à celui exprimé par sa sœur Anna Dimitriadou, la partie de la demeure qui leur appartenait, avec le mobilier, fut reléguée à l'archevêché. Le département des Antiquités obtint le reste du manoir. Grâce aux efforts du département des Antiquités, en 1935, le manoir fut classé monument ancien. D'importants travaux de restauration et d'entretien ont été entrepris pendant la période de 1981 à 1987 et le manoir a remporté le prix Europa Nostra. Actuellement, le manoir préserve la forme architecturale de la fin du 19e siècle, à savoir celle d'avant son partage avec les héritiers. Il s'agit d'un monument qui restitue et fait revivre l'atmosphère de l'époque de Hadji Yorgakis ainsi que l'histoire moderne. Aujourd'hui, le bâtiment est utilisé comme musée ethnologique et abrite plusieurs manifestations culturelles. Allons maintenant faire un tour dans le monument et voir de plus près les différentes pièces. Il semble qu'à cet emplacement, il existait déjà un bâtiment qui fut restauré et élargi par le Drogman. La date de 1793, gravée sur une plaque encastrée à l'intérieur de l'entrée centrale, marque sans doute l'achèvement des travaux d'aménagement du manoir. Hadji Yorgakis vivait ici avec sa famille. Il utilisait les locaux existants, ainsi qu'une résidence derrière le bâtiment actuel, qui fut démoli et dont on ne peut voir que le portail. Le Drogman tenait son bureau dans la préfecture. Cependant, il devait souvent utiliser son konak comme bureau et lieu de rencontre avec ses collaborateurs, ainsi qu'afin d'accueillir ses visiteurs. Dans sa forme actuelle, le manoir est un grand bâtiment d'un étage, composé de trois ailes en forme de U et construit en pierre poreuse locale taillée. Les façades sur rue du bâtiment affirment un caractère de forteresse, avec ses murs compacts et en haut ses trois rangées d'ouvertures en fer forgé. Les fenêtres de l'étage sont plus larges et la grille de fer occupe seulement la partie inférieure de l'ouverture. Au-dessus de ces fenêtres, on peut voir une troisième rangée de plus petites fenêtres rectangulaires grillagées. La façade nord est ornée d'un balcon en bois couvert en encorbellement et d'un kiosque qui surmonte la porte d'entrée principale. Le linteau est composé d'une voûte en berceau brisé décorée en relief, qui est couronnée d'un bas-relief en marbre encastré représentant le lion ailé de Venise. Le lion est représenté de face et son pied droit est posé sur un évangile ouvert portant une inscription en latin sur deux pages. Pax tibi Marse Evangelista Meus. Que la paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste. À sa droite, on peut voir une tour avec un drapeau, et au centre, un aigle à deux têtes sur un bouclier, entouré de branches ornées de grenades en position horizontale. une croix sur un monticule apparaît au centre de l'aigle et dans la partie inférieure de la plaque, on voit figurer une bande composée de fleurons. La croix rappelle, dans sa forme la plus simple, les armoiries des Podocataro, une famille grecque latinisée qui comptait parmi les familles les plus importantes de Chypre aux environs de 1500. Son nom est donné à un des bastions des remparts de Lefkosia, celui de Podocataro, qui fut construit aux frais de la famille. Cependant, la plaque dans son ensemble n'est pas un blason, et il semble qu'elle appartenait à un autre monument plus ancien. On entre dans le manoir, où on peut voir les deux ailes qui s'étendent vers le nord et renferment une partie de la cour. Contrairement à la façade, la plus grande partie de l'étage est composée d'un cadre en bois comblé de différents matériaux de remplissage et percé de multiples ouvertures. Une petite pause avant d'avancer pour jeter un coup d'œil en arrière. Au-dessus de la porte d'entrée, on peut voir une plaque amulette encastrée, en marbre, qui porte le monogramme de Hagi Yorgakis et la date 1793, figurant en lettres et en chiffres au-dessous de trois croix en relief. Celui du milieu, où on lit les sigles grecs « Isus Christos Nika », « Jésus-Christ vainqueur », est accompagné de la lance et de l'éponge. Une composition qui représente le supplice de la croix et qui est répétée sur le décor en marbre, sur la partie supérieure de la fontaine en marbre située dans la cour entre les deux ailes. Au même endroit, on peut aussi voir une autre date en relief, 29 juillet 1803. Au milieu, on y voit figurer une composition représentant un aigle à deux têtes et aux deux bouts, deux oiseaux à figure humaine qui s'appuient sur des demi-colonnes décoratives. Derrière la fontaine, on distingue une citerne bâtie d'où l'eau coulait dans un bassin rectangulaire, un ancien sarcophage réutilisé. Si l'on regarde les trois ailes, on constate que l'aile ouest garde son caractère de forteresse, à savoir des façades avec des murs compacts en pierre poreuse, tandis que l'étage de l'aile est et nord est composé d'un cadre en bois composé de différents matériaux de remplissage, dolmens. Les éléments en bois, les multiples ouvertures et les murs blancs de l'étage donnent aux ailes un caractère plus léger. Le rez-de-chaussée est caractérisé par les voûtes en berceau brisé qui parcourent l'intérieur et les trois ailes, en créant des galeries, iliacos, autour de la cour. Une des pièces du rez-de-chaussée dans la partie nord, à l'est, est réservée aux gardiens, tandis que la grande salle du nord-ouest est aménagée pour accueillir des expositions, des conférences, des manifestations musicales et d'autres événements culturels. Dans l'aile est du manoir, l'escalier couvert d'un toit en bois mène justement au premier étage qui est décoré de meubles appartenant à la famille depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle, période de la domination anglaise, ainsi que des meubles et d'objets de la même période offerts ou achetés par le département des Antiquités. On entre directement dans la salle d'entrée, l'Iliacos, Solarium, une salle de séjour lumineuse grâce aux ouvertures qui communique avec les pièces principales de l'étage. On peut clairement voir le portrait de Constantin Zachariadis, frère d'Urania Zachariadou, dernière occupante de cette aile de la résidence. Il s'agit d'une peinture à l'huile réalisée par le peintre et Ioannidis. L'Iliacos s'étend vers le nord et donne sur un petit balcon couvert en encorbellement et surélevé, le kiosque qu'on peut voir sur la façade. À l'est du balcon, on trouve une chambre rectangulaire spacieuse avec deux rangées de 14 fenêtres, connues sous le nom de bois de la vraie croix, car la pièce servait autrefois d'église. Actuellement, elle accueille des objets liés à l'histoire de la famille, des icônes, et une collection d'objets en céramique d'époque médiévale et postérieure. Il faut noter dans un coffret le service à café de 12 tasses en porcelaine dorée offert à Giuliani Vonditiano par Lady Stanhope. À l'ouest du balcon, une grande salle abrite une collection de plusieurs objets datant de la domination ottomane et des premières décennies de la domination anglaise à Chypre, avec par exemple des ustensiles en cuivre, des fusils à chargement par la culasse, des bijoux, pipes et pièces de monnaie. À ce propos, il faut rappeler l'essor de l'argenterie et de l'orfèvrerie chypriote lors des XVIIe et XIXe siècles, et en particulier à Lefkosia, centre important de cet art traditionnel. Les références comprises dans le registre de Hagi Yorgakis où il énumérait ses biens meubles et immeubles, sont indicatives et très détaillées à cet égard. À l'ouest de l'Iliakos se trouve la salle à manger et au sud-ouest, la chambre à coucher. Les deux chambres donnent sur l'Iliakos et sont meublées dans le style du début du XXe siècle. De l'autre côté de l'Iliakos, au sud, s'étend un couloir avec de grandes ouvertures sur la cour qui mènent à trois pièces. La première pièce est dotée d'un escalier intérieur qui permet d'accéder au rez-de-chaussée. Ici, on peut voir une peinture murale qui représente une figure d'homme armé. Les salles avoisinantes, qui à l'époque ne faisaient qu'une seule pièce, abritent du matériel didactique, textes d'information et photocopies de divers documents qui éclairent les différents aspects de la personnalité du drogman Hadžiorgakis Kornezius. De plus, on y trouve dessins, photos et textes explicatifs relatifs à l'évolution architecturale du manoir, aux travaux de restauration et à l'étude des couleurs. Au bout du couloir, on voit une horloge comtoise du XVIIIe siècle, œuvre d'Isaac Roger. À l'origine, l'horloge fut propriété de Michel de Vezin, consul d'Angleterre à Alep et à Chypre. Ensuite, elle passa aux mains de Zinon Pieridis à Larnaca, lequel à son tour offrit l'objet au musée de Chypre en 1961. L'église d'Agios Antonios, près du manoir Hadžiorgakis, abrite une horloge similaire avec caisse en bois et balancier, avec la réplique d'un bateau animé. La porte à côté de l'horloge donne sur la salle de réception, la pièce principale, nommée aussi Bon Ondas, Aspastikos Ikos ou Aspastikon, où le maître de maison recevait les visiteurs. La salle est meublée de canapés bas, mobiles, de tapis en feutre et de coussins de velours. Cette représentation de la pièce principale a été rendue possible grâce aux informations sur le mobilier de la salle supérieure et des autres lieux de réception qui sont fournis par le registre manuscrit des biens de Hadžiorgakis. Le tout est complété d'un plateau en cuivre posé sur des pieds bas et servant de table, ainsi que d'un narguilé et un brasero. On peut donc y observer d'emblée les points communs avec d'autres salles similaires de manoirs situées dans les régions urbaines du territoire ottoman. Les revêtements muraux en bois ornés de peintures murales multicolores avec des bouquets de fleurs, les armoires encastrées, l'un doté d'une niche, l'autre menant au toit, sur le mur nord, décorés en simili-marbre, sont bien caractéristiques de cette époque. Les trois côtés du salon sont éclairés par de hautes fenêtres. Le plafond au-dessus du salon surélevé porte une décoration originale, sculptée en bois, élaborée, dorée, ornée d'une peinture murale et divisée en zones de fleurs. Dans la partie rectangulaire du plafond, la décoration est dominée par des motifs géométriques aux couleurs vives. À l'abri de la niche du mur nord, une peinture murale illustre une cité aux maisons voûtées avec une enceinte, des cyprès et des fontaines. Elle s'étend devant la mer et est dotée d'un pont et est entourée de deux anges portant chacun une trompette. Il s'agit peut-être de Constantinople. Cette pièce est le seul exemple de salle de réception, Bon Ondas, décorée subsistant à Chypre. Les quatre portraits décorant les murs ne sont pas moins importants. Le mur méridional abrite deux portraits à l'huile de Hadžiorgakis Kornezius. Le drogman tient un firmament à la main et porte une pelisse, mélotis, et un bonnet fourré de zibeline, c'est-à-dire l'habit officiel des drogman. À l'est et à l'ouest, les deux portraits, plus modernes, illustrent Tselepi Yangos, fils de Hadžiorgakis, et sa femme, Yuliani Vonditiano. Les portraits ont été réalisés par le peintre Constantin Takadzi, et respectivement date de 1852 et 1851. Retour dans la cour. À l'est, nous nous trouvons face à un ensemble d'édifices en pierre. Il s'agit de l'ancienne cuisine et de foyers couverts de cheminées. Au nord, un bâtiment indépendant, le hammam de la famille, composé de trois chambres contiguës. Au fond de la cour, un grand réservoir bâti. En se basant sur toutes les informations et les impressions recueillies, essayez de recréer mentalement l'ambiance du XVIIIe siècle à Chypre et d'imaginer ce manoir, avec les servantes occupées à leurs tâches quotidiennes, le drogman Hadji Yorgakis Kornesios accueillant ses invités de marque dans la salle de réception et son épouse Maroudia assise dans le kiosque occupée à sa broderie. Non loin du manoir de Hadji Yorgakis Kornesios, on peut visiter d'autres monuments importants, en particulier les bains et la mosquée d'Omeri, l'église d'Ayos Antonios, l'ancien bâtiment de l'archevêché, la cathédrale d'Ayos Ioannis, le musée byzantin et ethnographique, le musée de la lutte nationale, le Pankyprion Gymnasium fréquenté par Hadji Yorgakis Kornesios, la bibliothèque Severios, l'aqueduc Silitar, construit aux frais du drogman Hadji Yorgakis, la statue de la liberté, les remparts vénitiens et la porte de Famagouste, prix Europa Nostra. Heure de visite, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 15h30. Mercredi, de 8h30 à 17h. Samedi, de 9h30 à 15h30. Dimanche et lundi, fermé. Le manoir sera fermé les jours suivants, 25 et 26 décembre, 31 décembre, jour de l'an, dimanche et lundi de Pâques.